Nous prenons la parole dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. À partir du verset 10. La Bible dit, « Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car leur cœur, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Voilà la réponse que le Seigneur donne à ses disciples après avoir parlé en parabole. Les disciples se sont interpellés, mais Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole? Et le Seigneur va leur répondre. Et dans cette réponse, on peut comprendre le privilège, on peut comprendre l'exclusivité que le Seigneur accorde à ses disciples. Il dit, vous, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume des cieux, mais pas à eux. Le Seigneur va beaucoup plus loin, il dit encore, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ont désiré entendre, comprendre ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui. Nous voyons dans le monde que pour élire un président de la République, il faut voter. Pour élire le maire de la ville, il faut voter. Ainsi, le monde fonctionne dans cette logique pour qu'un homme soit élevé, pour qu'il soit à la tête d'un mouvement, qu'il soit à la tête d'un pays, il faut qu'il soit voté. Et le monde fonctionne ainsi. Mais nous qui avons eu la révélation de Dieu, nous comprenons qu'en réalité, toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on vote, ce n'est pas parce qu'on choisit, mais c'est tout simplement parce que la volonté de Dieu s'accomplit. L'homme peut faire des projets, la Bible dit, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alors si le monde aujourd'hui prétend choisir son président, prétend choisir son monde, son PDG, son maire, par les urnes, la Bible nous dit que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui enlève, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et nous avons un privilège qui est au-dessus du monde. Le monde peut passer par les urnes. Mais nous, enfants de Dieu, à qui le Seigneur a révélé le mystère du royaume des cieux, nous comprenons que par la prière, nous avons une autorité supérieure aux urnes. Que par la prière, nous avons l'autorité supérieure aux chefs d'État. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et cette réalité, autrefois, lorsque nous étions dans le monde, nous ne la comprenions pas. C'est parce que nous sommes devenus enfants de Dieu que le Seigneur nous a donné l'intelligence pour comprendre le mystère du royaume des cieux. Et au temps de Jésus, beaucoup de pharisiens, beaucoup de juifs prétendaient connaître la vérité, prétendaient connaître la parole de Dieu. Alors le Seigneur leur a parlé en parabole, multiples fois, encore à Nicodème, docteur de la loi, qui était censé comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur lui parle sur la nouvelle naissance et le voilà perdu. Seigneur, faut-il entrer encore dans le sein de ma mère pour pouvoir renaître? Le Seigneur lui dit, mais toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses-là. Et le Seigneur dit, mais à ses disciples, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume des cieux. Ce qui est mystérieux, c'est ce qui est caché. Et ce qui est caché ne peut être révélé que par Dieu seul. Ce n'est pas en creusant, ce n'est pas par de longues études que nous pouvons comprendre la réalité du ciel. Ce n'est pas par des longues études que nous pouvons comprendre qui est Dieu. Ce n'est pas par des heures passées dans la Bible avec le cœur rempli d'orgueil que nous pouvons comprendre qui est Dieu. Nous comprenons qui est Dieu parce qu'il fait le choix de nous révéler qui il est. Et les disciples étaient en face de ce cas de figure. Le Seigneur dit, vous, il vous a été donné par la grâce de Dieu, par la souveraineté de Dieu. Vous êtes privilégiés parce que ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous entendez, des prophètes et des hommes justes ont désiré voir cela, mais ne l'ont pas vu. Aujourd'hui, nous sommes privilégiés devant le monde qui cherche le bonheur, qui cherche la paix, qui cherche comment comprendre Dieu par des études de théologie, par toutes sortes de moyens terrestres, toutes sortes de moyens humains. Mais à tous ceux qui se sont humiliés, qui ont accepté de reconnaître que Dieu était au-dessus de tout, qui ont accepté de reconnaître qu'ils n'étaient rien du tout, qu'ils n'étaient pas maîtres de leur vie, le Seigneur dit à tous ceux-là, eh bien, il leur a été donné de comprendre le mystère du royaume des cieux. Nous sommes des privilégiés bien-aimés. Et nous devons comprendre que si le monde utilise des moyens pour guérir, utilise des moyens pour former leur avenir, la Bible nous dit à nous que si nous prions avec foi, tout ce que nous demandons avec foi, si nous croyons dans notre cœur, alors nous verrons cela s'accomplir. Le monde enseigne que si tu mets l'espérance dans tes études, si tu mets l'espérance sur le gouvernement qui te soutient, si tu mets l'espérance sur tes parents qui ont beaucoup d'argent, alors tu réussiras, alors tu seras quelqu'un. Si tu mets l'espérance dans les traditions des grands-parents, les traditions de la famille, alors ton mariage réussira. Mais la Bible nous dit que tout ce que nous demandons en priant, alors Dieu nous l'accordera. Par la prière, nous pouvons obtenir ce que le monde cherche à faire en 30 ans, en 10 ans. Ce que le monde cherche à faire en sacrifiant des enfants, en sacrifiant des hommes, en faisant toutes sortes d'expériences, bien-aimés, tester des médicaments, tester toutes sortes de produits chimiques pour voir comment cela pourra être efficace. La Bible nous le dit, que nous, en priant, on peut obtenir ce que le monde cherche à construire en 10 ans, en 30 ans. David dit que son cœur est fondé sur l'Éternel. Il dit qu'il est comme un enfant sevré auprès de sa maman. Tout ce qu'il fait, celui qui est fondé sur la parole, lui réussit. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Son feuillage ne se flétrit point, le feuillage est toujours vert, il ne manque de rien. Et la Bible dit que Dieu bénit ses enfants. Pendant que ceux qui se tracassent, ceux qui ont le souci du monde, se lèvent tous les matins pour chercher leur avenir, se lèvent tous les matins pour chercher une espérance. Le Seigneur dit qu'il en donne autant à ses enfants qui dorment, à ses enfants qui ne font pas d'efforts, mais à ses enfants qui ont foi en lui, qui prient et qui ont compris que par la prière, ils peuvent obtenir ce que le monde propose dans le compromis, ce que le monde propose dans le péché. En s'humiliant dans la prière, nous pouvons l'obtenir. Et c'est ce privilège-là que Dieu nous donne sur le monde. Le Seigneur nous dit, mais à quoi ça sert de se tracasser? Pourquoi se soucier? Est-ce que par les soucis, vous pouvez ajouter une coudée à la durée de votre vie? Est-ce que par les tracasseries, nous pouvons changer notre avenir? Est-ce que par des pleurs, par des grincements de dents, par des murmures, par la rébellion vis-à-vis de Dieu, est-ce que nous pouvons garantir notre avenir? Le Seigneur dit, mais le lendemain aura soin de lui-même. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. et tout ce que vous voulez. Le Seigneur dit, il sait qu'on en a besoin. Mais il dit, mais ça, ce sont les païens qui recherchent. C'est le monde qui recherche ça. Mais vous cherchez d'abord ma justice et mon royaume. Et tout ce que les païens cherchent, tout ce que les païens font pour tenter d'obtenir, Dieu dit que moi, je vous le donnerai. Parce que je sais que vous en avez besoin. Il nous a été donné de comprendre le royaume des cieux. Bien-aimés, si aujourd'hui le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir comprendre ce qui était mystérieux et ce qu'il est encore pour beaucoup de païens et pour beaucoup de chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Mais pour ceux qui ont connu le Seigneur, pour ceux qui marchent dans la vérité, si Dieu nous fait la grâce de pouvoir comprendre ces choses, bien-aimés, c'est pour une raison. Si Dieu nous fait la grâce de pouvoir comprendre le royaume des cieux, si Dieu nous fait la grâce de pouvoir comprendre ce qui peut dépasser l'intelligence humaine, bien-aimés, ça devient un privilège pour nous. Et malheureusement, ce privilège que Dieu nous accorde, beaucoup d'enfants de Dieu ne l'utilisent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ne l'utilisent pas, bien-aimés. La Bible dit que les enfants du monde sont encore plus intelligents que les enfants de lumière. Vous voyez aujourd'hui comment, dans le monde, celui qui est fils de ministre, bien-aimé, comment il va utiliser ce privilège-là? Vous pensez qu'il va faire la queue lorsqu'il voudra prendre l'avion? Celui qui est fils du président, bien-aimé, vous pensez qu'il va traîner à pied avec des chaussures trouées, bien-aimé? Les gens du monde savent utiliser leurs privilèges. Ils savent que lorsqu'ils sont dans une position qui peut les favoriser sur tous les domaines, bien-aimés, ils vont en user. Mais nous, enfants de Dieu, à qui Dieu a fait la révélation des mystères du royaume des cieux, nous sommes encore dans les pleurs, nous sommes encore dans les lamentations, nous sommes encore dans les murmures, dans les critiques. Nous n'utilisons pas le privilège que Dieu nous accorde. Et la vie chrétienne devient difficile. La vie chrétienne devient morte, bien-aimée, alors que le Seigneur nous fait le privilège de pouvoir comprendre, de pouvoir voir ce que le monde ne peut pas comprendre. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais le monde semble être plus heureux quelquefois que les chrétiens, parce que les chrétiens ne savent pas user de leur privilège en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu. Les chrétiens ne savent pas utiliser leur privilège en utilisant la prière. Dieu nous donne la prière pour pouvoir résoudre nos problèmes. Dieu nous donne la prière pour pouvoir espérer, pour pouvoir tenir ferme devant la tentation, pour pouvoir tenir ferme devant le compromis. Et les chrétiens cherchent à fonctionner comme le monde. On cherche des pistons comme aujourd'hui le monde marche par piston. Ah mon frère, tu veux travailler dans telle boîte? Vraiment, si tu ne connais pas quelqu'un, ça sera difficile. Alors à quoi ça sert d'être enfant de Dieu? S'il faut connaître une personne aujourd'hui pour pouvoir travailler, à quoi ça sert d'être enfant de Dieu? Le privilège d'enfant de Dieu, bien-aimé, nous devons le vivre, nous devons l'expérimenter, nous devons l'utiliser. Mais ce privilège-là ne peut être utilisé que si notre cœur est fondé sur le Seigneur, que si notre cœur est tourné vers Dieu. Les chrétiens aujourd'hui qui ont une vie où on a l'impression que tout fonctionne. On a quelquefois l'impression que Dieu fait du favoritisme, que Dieu aime certains plus que d'autres. Mais c'est tout simplement que ces chrétiens-là, ils ont une bonne communion avec Dieu. Et lorsqu'on est en bonne communion avec le Seigneur, le Saint-Esprit va nous inspirer à faire la bonne prière au moment où il faut. Il y a des gens qui prient aussitôt, ils sont exaucés, et on a l'impression que Dieu les favorise. Non! C'est simplement la prière qu'ils ont faite, c'était une prière inspirée par Dieu. Et lorsque la prière est inspirée par Dieu, Dieu répond aussitôt. Parce qu'il est en bonne communion avec Dieu. Il fait une seule personne avec Dieu. Et son souci, c'est de servir Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Et de tels hommes ne peuvent faire que des prières qui vont directement droit au cœur de Dieu, puisqu'elles viennent, elles sont directement inspirées de Dieu. Ces personnes-là savent utiliser leur privilège en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous a fait la grâce de comprendre le mystère du royaume des cieux. Et libre à chacun, en fonction de sa foi, en fonction de la communion qu'il a avec le Seigneur, d'expérimenter réellement la révélation du mystère du royaume des cieux, bien-aimés. nous sommes des privilégiés? Est-ce que nous vivons comme des privilégiés? Ou est-ce que nous sommes encore dans les mêmes soucis que les gens du monde? Est-ce que nous sommes encore dans les mêmes tracasseries que les gens du monde? On cherche le pouvoir, on cherche les premières places. Mais il a été révélé aux disciples que celui qui s'abaissera, c'est celui-là qui sera élevé. Il a été révélé aux disciples que le plus grand, ce sera celui qui sera comme le plus petit. Il a été révélé aux disciples que si le grain de blé qui tombe et ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Pour que le fruit soit produit, il faut que le grain de blé qui tombe accepte aussi de mourir. Le monde nous a enseigné qu'il faut tenir ferme, qu'il faut sortir la tête du lot, qu'il faut être meilleur que les autres, qu'il faut écraser les autres pour être élevé, pour être reconnu. Le mystère du royaume des cieux nous révèle qu'il faut être abaissé pour être élevé. Dieu nous a fait la grâce de comprendre ces choses-là afin de réellement vivre ce que tout homme sur la terre recherche. La paix du cœur, le bonheur que le matériel ne peut pas donner, que le monde ne peut pas donner. Et parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir comprendre le processus, de pouvoir comprendre la voie à emprunter. Aujourd'hui, si nous pouvons chanter que Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas par notre propre intelligence. Parce que si nous étions réellement intelligents, lorsque nous étions dans le monde, on aurait chanté que Jésus-Christ était Seigneur. Mais si aujourd'hui nous pouvons le chanter, si aujourd'hui nous pouvons chanter et pleinement le réaliser, c'est parce que Dieu nous a fait la grâce de pouvoir le comprendre. Philippiens 4, 6 nous dit de nous inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître nos besoins à Dieu. Ce que le monde recherche, par le travail, par la drogue, par la science, depuis des années et des années, des générations sont passées et certains croient toujours que la Terre a existé à partir du Big Bang. Depuis des années et des années, des grands savants, des gens reconnus dans ce monde croient toujours que l'homme est descendant du singe. Depuis des années et des années d'études, voilà encore dans quelle réflexion, voilà encore dans quelle révélation l'homme se trouve. Qu'il vient du singe, que le Big Bang a été le commencement de toute chose. Que par la médecine, on peut résoudre tous les problèmes. Que par la drogue, on peut résoudre tous les problèmes. Que par le compromis, on peut résoudre tous les problèmes. Que par la dictature, par le pouvoir, on peut résoudre tous les problèmes. Voilà où sont encore les hommes. Mais Dieu nous a fait comprendre que tous ces moyens-là, ce sont des faux moyens. Que tout ce que nous avons cherché dans le monde ne se trouve pas dans toutes les propositions, dans toutes les méthodes que le monde propose. Les gens font des kilomètres. Les gens réfléchissent. Beaucoup passent des nuits. Des gens sacrifient leur vie de famille pour chercher à prouver que Dieu n'existe pas. Toute une vie. Des milliers d'euros pour prouver que Dieu n'existe pas. Mais dans la simplicité, lorsqu'on s'humilie, toutes ces réponses-là, Dieu nous les accorde. Ne vous inquiétez de rien. Par la prière, par la communion avec Dieu, nous pouvons comprendre. Nous pouvons avoir des réponses aux questions que le monde se pose encore aujourd'hui, depuis que l'humanité a existé. Ce que les gens, depuis le temps de Noé, ont refusé de comprendre. Ce que les gens, depuis le temps de la ville de Sodome et Gomorre, ont cherché à comprendre. Dieu nous le révèle. Il y a des savants qui sont passés. Il y a des rois qui sont passés, qui avaient de grandes notoriétés. mais qui n'ont pas pu comprendre ce que nous, nous comprenons aujourd'hui. Il y a des prophètes comme David qui ont eu des révélations extraordinaires sur Jésus-Christ, qui ont eu des révélations extraordinaires sur la venue du Saint-Esprit, comme il est dit dans Joël, mais qui n'ont pas pu le vivre, qui n'ont pas pu le comprendre. Et Dieu nous fait cette grâce à nous de pouvoir comprendre ces mystères. Comme il dit que même des prophètes avaient désiré voir, avaient désiré entendre. Dieu nous fait cette grâce-là. De voir les manifestations de l'Esprit, comme beaucoup ne l'ont pas vu. Dieu nous fait la grâce de comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que le peuple d'Israël n'a pas pu comprendre en 40 ans passés dans le désert, en venant dans le Seigneur, Dieu nous le révèle. En s'humiliant devant Dieu, Dieu nous le révèle. Le salut des païens, que même les disciples de Jésus n'avaient pas pu comprendre totalement, Dieu nous l'a fait comprendre clairement. Le salut était réservé aux Juifs. C'était difficile aux Juifs d'accepter que le salut était aussi pour les païens. Même lorsque l'apôtre Paul est venu avec cette révélation-là, ce n'était pas facile aux Juifs de l'accepter. Mais pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu, c'est quelque chose qui paraît tout à fait normal. C'est quelque chose que nous pouvons comprendre sans difficulté. Parce que nous l'avons aussi reçu. Parce que Dieu nous a ouvert les yeux pour comprendre ce mystère-là qui était caché. La Bible nous dit que tout ce que nous demandons, en priant avec foi, nous le verrons s'accomplir. Cette révélation qui était difficile, bien-aimée, pour beaucoup à comprendre, Dieu nous l'a accordée. Est-ce que nous l'utilisons? Est-ce que nous pouvons comprendre cette grâce et ce privilège dans lequel le Seigneur nous a placés, bien-aimés? Autant des apôtres bien-aimés, la parole, l'évangile que nous avons aujourd'hui n'était pas facile à tous d'accepter. La Bible n'était pas en grand nombre comme nous l'avons aujourd'hui. Lorsque la parole de Dieu n'était pas écrite, vous imaginez toutes les révélations que les uns et les autres pouvaient avoir. Chacun venait avec ses révélations, chacun venait avec ses songes. Et c'était sujet à débat, à des débats. Combien c'était difficile aux apôtres de combattre pour la vérité. Tant qu'il n'y avait pas les écrits. Combien c'était difficile de résoudre les problèmes, de convaincre qu'ils avaient reçu l'autorité. Mais Dieu nous fait ce privilège-là. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait le privilège d'avoir la parole, d'avoir et de pouvoir la comprendre. Et nous fonctionnons encore comme des personnes qui n'ont pas reçu la Bible. C'était difficile dans leur temps de départager. Mais aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Lorsqu'il y a des songes, lorsqu'il y a des révélations, nous avons cette grâce de pouvoir comprendre la parole de Dieu, de pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et nous passons notre temps à nous quereller. On passe notre temps à nous justifier en fonction des songes et des visions que nous avons, en oubliant que Dieu nous a fait la grâce de pouvoir comprendre la parole, de pouvoir avoir la Bible pour pouvoir clarifier les choses. Et nous fonctionnons comme des personnes qui n'ont jamais lu la Bible. Nous fonctionnons comme des personnes qui ne comprennent pas ce qui est écrit. Nous fonctionnons comme des personnes qui n'ont jamais eu d'enseignement. Et lorsqu'on se comporte ainsi, bien-aimé, c'est logique que la vie chrétienne devient difficile. Tu viens avec ton songe, je viens avec ma vision. Et chacun reste dans sa position parce que je crois que ma vision est vraie. Toi, tu penses que ton songe est vrai. Mais bien-aimé, qu'est-ce que nous dit la Bible? Les révélations, les songes remplacent la parole de Dieu. Et la vie chrétienne devient compliquée. on prend des positions sur certaines personnes, simplement à partir des songes et des visions. Comment l'Église peut-elle fonctionner simplement à partir des songes et des visions, bien-aimés? La Bible nous dit que nous, il nous a été donné de comprendre le mystère du royaume des cieux. Alors pourquoi nous rendre la vie difficile en conduisant notre vie chrétienne simplement sur des songes et sur des visions? Ceux qui sont en bonne communion avec le Seigneur, ce sont ceux-là qui demeurent dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on est dans la parole de Dieu, bien-aimé, on peut comprendre tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Nous sommes des privilégiés. Le Seigneur nous a fait donner des privilèges, comme il est écrit, bien-aimé, que des prophètes et beaucoup de justes avaient désiré voir. La Bible nous dit, dans Jean 14, 12, le Seigneur parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné tellement de promesses sur le fait que tout ce que nous demandons en priant, il le fera. Le Seigneur nous a donné tellement de promesses aujourd'hui qui doit rendre notre intercession forte, notre intercession efficace. Le Seigneur nous a donné tellement de promesses qui doit nous donner, qui doit nous produire la foi dans notre vie. Combien d'entre nous aujourd'hui doutons encore même lorsque nous prions? Doutons encore lors d'une situation? Le Seigneur dit que tout ce que nous demandons, en son nom, il le fera. Ce que nous demandons en son nom, il le fera. Dans l'Ancien Testament, bien-aimé, il n'avait pas le nom de Jésus. Il ne priait pas au nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, le peuple était conduit par les prophètes. Les prophètes étaient l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Lorsqu'il y avait des sacrifices à faire pour le pardon des péchés, on passait par des sacrificateurs. Le peuple avait des prophètes, avait des sacrificateurs pour pouvoir s'adresser à Dieu, pour pouvoir faire des sacrifices à Dieu. Mais la Bible nous dit que nous avons le nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin de passer par le pasteur pour parler au Seigneur. Nous n'avons pas besoin de passer par un homme pour faire des sacrifices. Nous n'avons pas besoin d'un temple pour nous présenter devant Dieu. Nous avons eu le nom de Jésus. Le Seigneur dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il y en a aujourd'hui qui prient des morts pour pouvoir s'adresser à Dieu. Saint Christophe, Saint Philippe, Saint Michel, je ne sais pas, toutes sortes de saints bien-aimés. Leurs yeux sont encore fermés sur les révélations que Dieu nous a accordées. Il y a des personnes pour s'adresser à Dieu qui sont obligées d'allumer toutes sortes de bougies, allumer des encens, et ils pensent atteindre Dieu de cette manière-là. Mais la Bible nous dit que nous avons eu cette révélation, qu'au nom de Jésus nous pouvons demander. Quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit le sujet, il n'y a pas besoin de faire le sacrifice d'un animal pour telle chose. Et demain, il faudra faire un sacrifice de tant d'animal pour autre chose. Quelle que soit la demande, quel que soit le besoin, la Bible nous dit que nous avons le nom de Jésus. Si vous demandez en mon nom, je le ferai, dit le Seigneur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Quelle assurance, bien-aimé, le Seigneur nous donne. La Bible dit que nous qui avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Or, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ lui-même est venu vivre en nous. Il a fait cette promesse que s'il frappe à la porte et que nous entendons et que nous ouvrons, alors il entrera. Jésus-Christ est venu vivre en nous. Et lorsque nous vivons la nature de Jésus, lorsque nous vivons la parole de Dieu et que nous nous adressons au Seigneur, lorsque le Seigneur entend cette prière, ce n'est pas comme si c'était la prière d'un homme, mais c'est comme si c'était la prière de son propre Fils qui vit en nous. Dans Jean 11, alors que Lazare était mort depuis 4 jours, le Seigneur dit à ses disciples, « Nous allons aller réveiller Lazare car il dort. » Lorsque le Seigneur est venu, il a trouvé toute la foule dans les pleurs, dans la tristesse. Le Seigneur Jésus-Christ va demander qu'on ôte la pierre. Lorsqu'il va prier, il dit, « Père, je te prie non pas à cause de moi, non pas à cause de moi, parce que moi je sais que tu m'exauces toujours, mais à cause de cette foule-là. » Jésus-Christ savait que le Père l'exauçait toujours. Il n'a pas prié parce qu'il doutait que Dieu allait peut-être agir. Il n'a pas prié pour toucher le cœur de Dieu d'une quelconque manière. Il avait cette assurance-là que le Seigneur ne pouvait pas résister à sa prière. Père, je te prie, non pas pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Or, ce Jésus-là bien-aimé, auquel le Seigneur ne peut pas résister, le Seigneur Dieu, ne peut pas fermer les, pour lequel il ne peut pas fermer les oreilles. La Bible dit qu'il a été souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent. Ce Jésus-là qui a ressuscité Lazare, ce Jésus auquel Dieu ne peut rien refuser. Bien-aimé, c'est ce Jésus-là qui vit en nous. Et lorsque nous sommes conformes à la parole de Dieu, lorsque nous sommes conformes à la nature de Jésus-Christ, et que nous prions avec assurance et avec foi, bien-aimé, Dieu ne peut rien nous refuser. Lorsque nous sommes dans cette communion dans laquelle le Seigneur était avec Dieu, lorsque nous ouvrons la bouche, bien-aimé, Dieu ne peut rien nous refuser. Parce que ce n'est pas la prière d'un homme qu'il entend, c'est la prière de son Fils qui vit en nous. Si notre cœur est attaché à Dieu, nos prières aussi seront inspirées par Dieu. Et lorsque les prières inspirées par Dieu lui-même montent jusqu'à lui, c'est comme si c'est Jésus-Christ qui le priait. Et le Seigneur dit, « Père, je te loue, parce que je sais que moi, tu m'exauces toujours. » Tu m'exauces toujours, bien-aimé. Lorsque nous avons cette assurance-là, lorsque nous venons dans les prières, dans les temps d'intercession, dans notre prière, bien-aimé, ça doit se ressentir que ces gens-là savent qui ils prient. Ces gens-là ont l'assurance. Non pas que Dieu va les exaucer, mais que Dieu les a déjà exaucés. Lorsque le Seigneur a prié pour ressusciter Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire le Seigneur savait qu'à ce moment-là, cette prière était déjà exaucée, avant même que le Seigneur la prononce. Et cette prière qu'il faisait devant les hommes, en réalité, c'était une prière simplement qui confirmait la volonté que Dieu avait déjà exaucée. Et lorsqu'on vient bien-aimé, proclamer quelque chose qui a déjà été, on le dit avec assurance. Lorsque une personne doit avoir un travail, l'entretien doit arriver, ou bien il a déjà passé l'entretien et il attend la réponse. Lorsqu'il attend cette réponse-là, bien aimé, il peut dire, bon, je crois que je vais l'avoir. Il n'y a pas de certitude. Parce qu'il attend une réponse. Mais quelqu'un à qui on a déjà remis le contrat en main, déjà signé, lorsqu'il viendra devant toi, il dira, je vais travailler avec assurance. Et un enfant de Dieu bien-aimé, lorsqu'il vient dans la prière, doit venir avec déjà la prière déjà signée de Dieu, qu'il va agir. Et lorsqu'il prie, c'est une proclamation qu'il fait parce qu'il sait que Dieu va l'exaucer. Parce que c'est une prière qui est dans la volonté de Dieu. Mais lorsque nous venons avec l'attitude qu'on n'est pas certain que Dieu va faire, on finit toujours, bon Seigneur, si c'est ta volonté. Seigneur, bon, si tu veux. On vient avec des paroles dans lesquelles on sent bien qu'on n'est pas certain de ce qui va se produire. On prie pour une personne, on dit, bon, on attend que Dieu fasse. Bien aimé, non. On prie pour une personne, on dit, Dieu a fait, parce qu'il est écrit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Lorsque l'on prie, on a cette assurance-là que Dieu exauce. Parce que ce n'est pas une prière qui est faite pour nous satisfaire. Comme l'apôtre Jacques nous le dit, nous prions, nous ne recevons pas. Parce que nous prions mal, nous prions simplement pour satisfaire notre chair. Mais lorsque nous prions avec un amour désintéressé, nous prions comme de véritables serviteurs de Dieu, comme de véritables enfants de Dieu. Alors nous pouvons dire, oui Seigneur, je sais que tu m'exauces. Comme la prière que Élie a faite devant tous les faux prophètes. Ils ont fait toute leur incantation devant le sacrifice. Le feu n'est jamais descendu pour consumer le sacrifice. Mais lorsqu'il a prié, il a dit, Seigneur, moi je sais que tu es Dieu. Mais afin qu'on sache que c'est toi qui es le véritable Dieu, Seigneur, fais. Agis afin que l'on sache, afin que ces gens-là sachent. Élie savait que Dieu n'avait rien à lui prouver. Il savait que c'était son Dieu. Il savait de quoi Dieu était capable. Il a dit, Seigneur, non pas pour moi, mais afin qu'eux tous sachent. Lorsque David est venu devant Goliath, il est venu avec cette assurance-là. Les gens lui ont dit, mais tu es jeune. Il a dit non, le même Dieu qui m'a soutenu alors que j'ai combattu les ours et les tigres, c'est avec ce même Dieu-là que je vais combattre Goliath. David n'a pas prié comme s'il attendait une victoire certaine, une victoire probable plutôt. David a dit, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Pour lui, c'était une évidence. Il ne venait pas devant Goliath pour se battre. Il venait devant Goliath pour proclamer que Dieu était Dieu. Il est venu devant Goliath pour montrer que c'était l'Éternel qui était Dieu. David n'avait rien à voir, il n'avait pas de problème avec Goliath. Il venait tout simplement proclamer que c'est Dieu qui était Dieu. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. David a dit, aujourd'hui, toute cette multitude saura que Israël a un Dieu. Tous ces gens-là verront et comprendront qu'Israël a un Dieu. David n'avait pas prouvé que Dieu était Dieu. Lui, il savait qu'il était Dieu. Mais il venait, par sa présence devant Goliath, proclamer tout simplement que Dieu était Dieu. Lorsque nous comprenons cela, bien-aimés, alors nous savons que dans la prière, mais oui, mais Dieu est Dieu. On ne prie pas pour obtenir quelque chose. Parce que nous avons cette certitude que nous l'avons déjà. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on espère. La manifestation de la foi, c'est une vie qui manifeste que nous avons déjà été exaucés, quelle que soit la chose. La démonstration, nous vivons comme des personnes qui ont déjà été exaucées. Parce que nous avons cette assurance-là, que le Jésus qui est en nous, Dieu ne peut rien lui refuser. Le Seigneur ne peut rien lui refuser. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean 5, 14 à 15 que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous l'avons, quelle que soit la chose. Nous avons cette assurance auprès de Dieu que lorsque nous sommes en conformité avec sa parole, que lorsque nous sommes en communion avec lui, les prières que nous lui adressons, alors nous avons la chose, quelle qu'elle soit. Le Seigneur dit que ce que nous demandons en priant avec foi, si nous le croyons, alors nous le verrons s'accomplir. Lorsque nous prions bien-aimés avec foi, notre vie va manifester si nous croyons réellement que Dieu a déjà exaucé. Avant que la chose se matérialise physiquement, elle est déjà matérialisée d'une manière spirituelle. Puisque nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous avons aussi un regard spirituel. Et lorsque nous prions, nous sommes réjouis. Non pas parce que nous avons vu la chose s'accomplir de nos yeux, mais parce de nos yeux physiques, mais parce que nous avons vu la chose accomplie avec nos yeux spirituels. C'est pour ça que nous sommes heureux, parce que dans le domaine spirituel, nous avons déjà vu l'accomplissement. C'est pourquoi la Bible, lorsqu'elle parle des héros de la foi, elle parle des personnes qui n'ont pas vu les choses s'accomplir de leurs yeux. La Bible dit qu'ils les ont salués de loin. Spirituellement, ils ont vu que Dieu avait déjà exaucé. Alors combien même s'ils mouraient, pour eux, ce n'était pas important. Parce qu'ils ont vécu comme des gens qui ont vu dans le spirituel que Dieu avait déjà agi. De leur vivant, ils n'ont pas vu l'accomplissement de ces choses-là. Abraham n'a pas vu la postérité qui est venue après lui. Espérance contre toute espérance. Abraham a tenu ferme. Les héros de la foi, ils n'ont pas vu l'accomplissement des choses. Avec leurs yeux physiques, mais avec leurs yeux spirituels, ils ont vu que Dieu avait déjà agi. Et ça, ça leur suffisait. Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Celui qui a Jésus dans sa vie, lorsqu'il ouvre la bouche, lorsqu'il s'humilie devant Dieu, il a cette assurance-là que Dieu a déjà agi. La Bible dit que Anne, qui n'enfantait pas, était perturbée. Anne, qui n'enfantait pas, était dans la tristesse à cause des autres femmes, de son mari, qui, elle, avait des enfants. La Bible dit, elle est venue devant Dieu, elle s'est humiliée. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Peut-être que les fois précédentes, c'était une prière égoïste. Mais là, elle a pris, Seigneur, si tu me donnes de tous les cas, je te le rendrai. La Bible dit que les gens pensaient qu'elle était ivre. Parce qu'ils voyaient simplement ses lèvres bouger. Le sacrificateur lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, mon Seigneur, je répondais mon âme. Et la Bible dit que lorsqu'elle s'est levée, qu'elle est partie, son visage était changé. Son visage était changé. Elle était déjà exaucée. Lorsqu'elle s'est levée, elle était déjà exaucée. Des personnes qui marchent en étant déjà exaucées, bien aimé, ça se voit aussi dans leur attitude. Leur visage témoigne que ces gens-là ont vu autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens s'inquiétaient pour Jésus alors qu'il était amené pour être crucifié. La Bible dit que les dames qui étaient là frappaient leurs mains contre leur poitrine. Ils étaient dans la tristesse. Jésus-Christ leur a dit, mais non, ne soyez pas tristes pour moi. Soyez tristes pour vous et vos enfants. Jésus-Christ connaissait son sort. Il voyait déjà ce qui était devant lui, la gloire à venir. Il voyait déjà toutes les âmes qui allaient être sauvées, qui allaient être guéries à cause de son sacrifice. Et les femmes qui étaient là se lamentaient. Le Seigneur a dit, mais lamentez-vous, pas pour moi, mais pour vous-même. Moi, je connais ma condition. Je sais comment les choses vont finir. Mais vous, vous ne savez pas. Inquiétez-vous de votre vie. Les gens peuvent être là, bien aimés, et se lamenter sur nous. Parce qu'on est dans le deuil. Parce qu'on est dans certains problèmes apparents. Bien-aimés, dites aux gens, disons aux gens, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Inquiétez-vous plutôt pour vous. Ayez la compassion si vous voulez soutenir moi, mais n'ayez pas la pitié. La pitié, bien-aimés, c'est charnel. Et lorsqu'on est charnel, on cherchera aussi à aider les gens d'une manière charnelle. Le Seigneur veut qu'on ait compassion, qu'on porte le fardeau avec les gens, mais non pas qu'on ait pitié. Lorsqu'on a la pitié, c'est-à-dire qu'on plaint les gens, c'est comme s'ils sont dans une situation sans retour. Mais celui qui a la compassion portera le fardeau en ayant l'espérance que Dieu va agir. Mais lorsqu'on a pitié des gens, c'est comme si tout était terminé. Tout est fini pour lui, là, vraiment. On se tape quand on apporte, ah, le pauvre, ah, bien-aimé, non. Sur notre visage, ça doit se démontrer que réellement, Dieu nous a déjà exaucés. Dieu nous a donné la prière. Et il nous a donné la prière au nom de Jésus. Nous lisons Jérémie 15. Verset 1er, la Bible dit, « Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serais pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Nous allons dans Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel 14, la Bible dit au verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause des bêtes, de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Amen. Le Seigneur dit, devant les péchés que le peuple d'Israël avait commis, il dit à Jérémie qu'il est dépassé. Le peuple est allé trop loin. Aussi loin que s'il se présentait Samuel ou Moïse, Dieu ne les écouterait même pas. Nous voyons déjà à travers cette parole du Seigneur à quel point le Seigneur pouvait mettre Moïse et Samuel. Dieu avait voulu détruire le peuple dans le désert. Moïse a prié. Éternel, si tu veux détruire ce peuple, alors enlève aussi mon nom du livre de vie. Mais si cet homme-là, que Dieu avait écouté alors que le peuple était rebelle dans le désert, se présentait, si Samuel, qui a consacré toute sa vie au Seigneur, la Bible dit qu'il fut fidèle à Dieu depuis le jour où sa maman Anne l'avait déposé au temple. Jusqu'à sa mort, il fut fidèle au Seigneur. Dieu dit que même si ces deux hommes-là viendraient, ils n'écouteraient pas. Le peuple est allé trop loin. Et il va encore dire dans ce passage, le peuple est allé trop loin. Le Seigneur dit que s'il envoie la famine, s'il envoie toutes sortes de fléaux, et qu'il y ait au milieu de ce peuple Noé, Daniel et Job, Dieu dit qu'il irait jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Mais il n'épargnerait que ces trois hommes-là, tellement ils étaient justes devant Dieu. Noé qui a prêché près de 100 ans à toute une génération qui n'a pas voulu se repentir, mais qui a eu la foi en la parole de Dieu, en acceptant d'obéir, en construisant l'arche, en faisant entrer tous les animaux que Dieu lui avait dit. Il fallait être fou pour croire à cela. Noé a été assez fou pour mettre sa confiance en l'Éternel. Daniel qui a refusé de se compromettre au mets du roi, qui a refusé de se compromettre alors qu'on lui avait donné une certaine position. Il a accepté de s'humilier alors que son peuple était rebelle, mais il a prié comme si lui-même avait péché. Job qui n'a pas renié le Seigneur dans toutes ses souffrances. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Éternel, mes yeux, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Il avait tout perdu. À son âge, il était revenu à la case départ. Mais il a accepté de s'humilier, de faire confiance à Dieu. Et tous ces gens-là ont eu l'approbation de Dieu. Mais Dieu dit que malgré cela, à cause du péché du peuple, même s'ils se présentaient, Dieu ne sauverait que leur vie à eux, mais ne sauverait pas la vie du peuple. Mais la Bible dit, en parlant d'Abel, qui figure dans les héros de la foi, il a fait un sacrifice agréable à Dieu. La Bible dit que son sacrifice parle encore aujourd'hui. Alors à combien plus forte raison le sacrifice du sang de Jésus? Et lorsque le Seigneur s'est présenté devant le tombeau où était Lazare, Seigneur, même si à un certain niveau, ça c'est moi qui interprète, tu peux ne pas écouter Noé. Même si à un certain niveau, tu peux ne pas écouter Moïse. Tu peux ne pas écouter Samuel. Même si à un certain niveau, je sais que tu ne peux ne pas écouter Daniel. Mais Père, je te loue de ce que moi, tu m'exauces toujours. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a été placé au-dessus de tout nom. Au-dessus de Moïse. Au-dessus de Abraham. Le Seigneur a dit avant que Abraham soit, moi j'étais déjà. Abraham s'est réjoui lorsqu'il a vu l'agneau attaché à la place de son fils. Tous ces hommes-là, dont les noms figurent dans la parole de Dieu, tous ces hommes-là qui ont fait des exploits avec Dieu, Élie, la Bible dit, qui était un homme comme nous, a prié même pour fermer le ciel. Il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. C'était des hommes comme nous. Des hommes que Dieu avait placés à un certain niveau. Mais ils n'ont jamais égalé le Seigneur. Car la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout nom. Le Seigneur ne lui refuse rien. Il vous a été donné des privilèges que même des prophètes et des justes n'ont pas pu avoir. Jésus-Christ vit en nous. Les héros de la foi, ceux qui ont conduit le peuple d'Israël, avaient pour mission de conduire le peuple d'Israël. Ils avaient une mission sur le peuple de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il nous a été donné d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Parce que Dieu nous a donné une grande responsabilité. Il nous a aussi donné de grands privilèges. Et c'est à nous maintenant de les utiliser. C'est à nous de comprendre quels sont les privilèges que Dieu nous a donnés. C'est à nous de comprendre que nous avons cette assurance auprès de Dieu, que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous avons la chose, quelle qu'elle soit. Pourquoi se tracasser, bien-aimé? Lorsque ton mari te donne tort, tu commences à murmurer, tu commences à te plaindre. Or, la Bible dit que par la prière, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Or, par la prière, Dieu te dit qu'il te justifiera. À quoi ça sert de fermer le front? À quoi ça sert d'aller faire chambre à part? Parce que ton mari t'a déçu. Parce qu'il n'a pas voulu croire au songe ou à la vision que tu as eue. À quoi ça sert, bien-aimé, de se fâcher contre sa femme? Parce qu'elle t'a mal parlé. Alors dans ce cas-là, à quoi ça sert d'être privilégié? À quoi ça sert d'être enfant de Dieu? Si nous ne pouvons pas utiliser ce privilège-là dans la prière pour que Dieu touche le cœur de la femme ou le cœur de l'homme, pourquoi pleurer jour et nuit, de manifester la colère, de vivre comme un dictateur pour essayer de redresser les enfants? Alors à quoi ça sert d'être enfant de Dieu? Si Dieu nous a fait des privilèges que nous n'utilisons pas, bien-aimés. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Le monde installe des radars. installe toutes sortes de politiques pour punir. On agrandit les hôpitaux psychiatriques parce qu'il y a trop de fous. On surcharge les prisons parce qu'il y a trop de malfaiteurs. Mais la Bible nous a révélé qu'en réalité, c'est le cœur de l'homme qu'il faut changer. Ce n'est pas en construisant d'autres prisons. Ce n'est pas en réfléchissant dans des laboratoires sur toutes sortes de médicaments pour essayer de soigner les fous. La Bible nous dit que nous avons auprès de Dieu cette assurance que par la prière, nous pouvons changer les choses. Que par la prière, nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Que si nous sommes en communion avec le Seigneur, alors nous avons cette assurance-là, que Dieu nous exauce toujours. Dieu nous exauce toujours, marchant par la vue et non par la foi. Le Seigneur a tout accompli à la croix. Il a manifesté qu'il était au-dessus de tout. Et il a dit que tout pouvoir lui a été donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Dieu a fait de nous une nouvelle création. Nos cœurs qui étaient en pierre, Dieu en a fait des cœurs de chair. Nous pouvons aujourd'hui être sensibles à la volonté de Dieu. Car la Bible déclare dans 1 Corinthiens 2 que l'Esprit de Dieu qui vit en nous sonde les profondeurs de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre la volonté de Dieu et nous pouvons faire des prières conformément à sa volonté. À Jésus-Christ seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous venons devant toi encore, Seigneur de gloire, nous humilier, Seigneur de gloire. Nous humilier, Seigneur de gloire, parce que c'est vrai que bien souvent, nous n'avons pas manifesté la foi. Bien souvent, Seigneur de gloire, nous t'avons adressé des prières en bégayant, Seigneur de gloire. Nous avons adressé des prières en hésitant, Seigneur. Or, tu dis dans ta parole que le juste vivra par la foi. Seigneur, tu dis dans ta parole que si tu crois dans ton cœur, que si nous croyons dans notre cœur, Seigneur, lorsque nous prions, alors ce que nous t'avons demandé, nous le verrons aussi s'accomplir. Car, Seigneur de gloire, les œuvres pour lesquelles nous prions, la Bible dit que tu les as déjà préparées d'avance. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et c'est toi qui mets les mots dans notre bouche. La Bible dit même, Seigneur de gloire, que lorsque les mots nous manquent, c'est le Saint-Esprit, Seigneur de gloire, qui t'exprime ce que nous voulons dire. Seigneur, merci pour l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur. Dans la prière, merci, Seigneur de gloire, pour le moyen que tu nous as donné de résoudre les problèmes par la prière. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous as donné de comprendre, Seigneur, le mystère du royaume des cieux. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur de gloire, nous ne marchons plus comme des aveugles, mais nous pouvons marcher réellement comme des gens, Seigneur, qui t'ont connu, comme des gens qui t'ont compris. Seigneur Dieu de gloire, beaucoup, Seigneur de gloire, se retrouvent dans des sectes, dans des mouvements religieux, à célébrer, Seigneur de gloire, des cérémonies, Seigneur de gloire. En mangeant ton corps, en buvant ton sang, Seigneur, sans même comprendre ce qu'ils font. Sans même comprendre, Seigneur, ce que tu as fait pour eux à la croix. Beaucoup, Seigneur Dieu de gloire, sont sous la malédiction, Seigneur, parce qu'ils ne comprennent pas, Seigneur de gloire, le symbole de la Sainte Cène. Seigneur, nous te louons parce que tu t'es révélé à nous, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur de gloire, parce que tu as porté nos fardeaux, Seigneur. Nous te bénissons pour ton corps que tu as livré pour nous, Seigneur, à la croix. Nous te bénissons pour ton sang que tu as versé pour, Seigneur de gloire, pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur de gloire, pour tes meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Seigneur, nous te bénissons pour ta résurrection. Nous te bénissons, Seigneur de gloire, pour ton salut, Seigneur de gloire. Nous te bénissons, Seigneur de gloire, pour ton retour que nous attendons, Seigneur de gloire, avec impatience, Seigneur, que nous attendons avec assurance. Seigneur, parce que tu t'es révélé à nous,